c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, Christophe Gérard, tu as écouté tout ça et on sait que l'Europe a connu le génocide de l'Holocauste. 6 millions de personnes juives, roms et queer, parce que oui, les homosexuels y passaient aussi, ont été tués par les nazis dans des camps de concentration. On pourrait croire que on ferait tout pour ne pas que l'histoire se répète chez vous. Qu'en est-il?
Mais écoute, moi je te dirais, enfin c'est quelque chose que j'ai entendu depuis l'enfance, que l'histoire c'est un éternel recommencement. Et c'est vrai que ben, quand on a parlé hein, au moment de la préparation de l'émission, j'ai été voir en fait pour faire un parallèle entre ce qui se passait dans les années 30 en Europe et ce qui se passe actuellement. Et on trouve beaucoup de similitudes. Si on se base sur les années 30, on était face à la crise économique de 29, les démocraties parlementaires s'affaiblissaient et on voit apparaître une hyperpolarisation de la gauche contre la droite radicale et à la montée des régimes autoritaires et populistes. Et finalement, c'est exactement ce qui est en train de se reproduire à l'heure actuelle. Il y a un recul démocratique dans plusieurs régions du monde. C'est le cas aussi en Europe. On parle souvent, et j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans mes chroniques, de la Hongrie, notamment avec Viktor Orban. Mais c'est pas le seul pays concerné. Il y a une méfiance envers les institutions qui sont considérées comme élitistes. Il y a une montée en puissance des mouvements nationalistes, un débat politique qui est marqué par une agressivité. Alors, je sais pas si c'est le cas aussi chez vous, mais en tout cas, nous, quand on voit ce qui se passe au sein de l'Assemblée, c'est juste impressionnant de se dire que il peut y avoir de telles injures qui peuvent être proférées au sein même de l'Assemblée nationale. C'est très violent. Et ça, tout ça, ça fait penser vraiment à ce qui se passait d'entre les deux guerres au niveau des tensions sociales. Donc, quand on parlait de mouvements et de partis d'extrême droite, il y en a plusieurs. On peut en citer quelques-uns, il y a l'ERN en France, donc le Rassemblement National, l'AFD en Allemagne, l'AFDI en Italie ou encore Vox en Espagne. Et si on prend ces quatre partis, ils sont assez emblématiques. On peut les scinder en deux groupes. Un groupe qui est vraiment lié à l'histoire. C'est le cas du Rassemblement National, hein, puisque le parti, ses origines, il les trouve dans le Front National, un parti qui a été créé par Jean-Marie Le Pen en 1972, et dont le but était d'unifier les différentes familles de l'extrême droite française, à savoir les anciens collabos, des partisans de l'Algérie française et des nationalistes. On retrouve un peu le même schéma sur FDI, donc Fratellia dell'Italia, qui trouve ses racines en fait dans un parti qui s'appelait le Mouvement Social Italien, qui a été fondé en 1946 par des nostalgiques de Mussolini, qui a été réformé, s'est transformé à plusieurs reprises, qui est devenu pendant un moment l'Alliance Nationale avant que Giorgia Meloni, donc la présidente de Fratelli d'Italia, fonde ce parti-là en 2012. Il faut savoir qu'elle a elle-même milité au sein du parti Alliance Nationale. Alors, ils ont une façon de se présenter qui est beaucoup plus policée. Le Rassemblement National change de nom, donc il devient Rassemblement au lieu de Front en 2018. Au moment où Jean-Marie Le Pen quitte la présidence au profit de Marine Le Pen, et on parle de dédiabolisation du parti, c'est exactement la même chose pour Giorgia Meloni. Juste pour faire... pour dire que ce sont des partis qui sont extrêmement marqués, j'ai retrouvé des propos de Giorgia Meloni. Alors, elle était toute jeune, c'était il y a 30 ans, elle avait 19 ans. Elle était interviewée par un journaliste français qui lui demandait ce qu'elle pensait de Mussolini. Et elle dit « Je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. » Et elle va encore plus loin en lui trouvant des qualités qu'elle ne trouve pas chez les hommes politiques depuis la mort de Mussolini.
Rien de moins.
Ouais. Jordan Bardella, qui a une image de gendre idéal, il a parmi son entourage propre un directeur de cabinet qui s'appelle François Paradol. Et ce monsieur, il a été membre d'une organisation d'Alain Soral, qui est un essayiste à la fois antisémite, raciste, homophobe, transphobe, masculiniste, enfin tout ce qui est très sympathique. Donc voilà.
Ça se traduit un peu comment tout ça? Parce que je vais quand même parler de... Il y avait une journaliste, Birgit Holzer, qui est une journaliste allemande basée à Paris, correspondante pour plusieurs titres, qui a fait donné une entrevue, puis je pense qu'on n'aura pas le temps de passer à l'extrême. Elle faisait des parallèles assez inquiétants entre ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui se passe maintenant vis-à-vis des personnes LGBTQIA+. C'est pas une étude universitaire, mais quand même. Et Christophe, je pense qu'il y avait trois choses qu'elle avait signalées. Est-ce qu'on peut parler de ça?
Oui, en fait, tous les partis, même s'ils ont une façon de fonctionner et des choses un peu différentes, ils ont quand même quelque chose en particulier, en commun. Alors attends, parce que je cherche une note.
La déshumanisation qui était la première chose là, qu'on a vu aux États-Unis. Oui. Et la déshumanisation, je vais t'aider parce qu'il manque un petit peu de temps. La menace existentielle, hein, prétendre que l'existence des personnes trans menace la survie de la nation. Présenter donc la déshumanisation que j'avais dit en premier, c'était de présenter les personnes comme une idéologie.
C'est ça, en fait, si tu veux. Alors ça, c'est un trait commun, c'est-à-dire que l'homosexualité, c'est plus quelque chose qui pose problème en tant que comportement individuel. Mais par contre, ils vont enlever ce côté humain pour utiliser des termes comme l'idéologie de genre, la théorie de genre, le lobby LGBT, plutôt que de parler des personnes.
Et puis la menace existentielle, parce qu'on dit qu'on est là pour groomer, rendre les gens trans. Et puis l'isolement législatif, on l'a vu aux États-Unis, ça se passe aussi, hein, l'accès à la santé, l'éducation, la visibilité. Il n'y a pas des contre-pouvoirs aux États-Unis, en Europe qui pourraient nous rassurer?
Si, j'en parle régulièrement dans mes chroniques. En fait, si tu veux, ce que nous, on a la chance d'avoir, c'est une Union européenne assez forte sur ces thématiques LGBTQIA+. On a plusieurs instances, à commencer par la Cour européenne de justice qui prend des décisions assez régulièrement. Ce qui est important à signaler, c'est que toutes les décisions européennes qui sont prises, elles font jurisprudence. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de genre, une personne, ça a été le cas, il y a eu un cas récemment, enfin l'année dernière, en Roumanie où la transidentité n'est pas reconnue en tant que telle, mais un Roumain qui avait fait son parcours de transition au Royaume-Uni est revenu et il a porté plainte auprès de la Cour européenne de justice pour faire reconnaître son changement d'état civil au sein de la Roumanie, et ça a été reconnu comme tel. C'est la même chose en ce qui concerne les droits familiaux. Donc les enfants qui sont nés par PMA notamment, qui sont reconnus dans un pays, la filiation va être reconnue également, quel que soit le pays dans lequel on se trouve.
Aux États-Unis, aux États-Unis, les juges qui prennent des décisions contre le gouvernement Trump.
C'est ça que j'allais dire. Alors qu'on a une administration au Congrès qui se fout absolument de tout. Du droit, de la loi. Les juges fédéraux aux États-Unis, ils ont été très actifs. On a plus de 250 poursuites contre l'administration Trump regardant les questions de genre aux États-Unis en ce moment, ce qui est énorme. Alors, les cours fédérales sont un peu, ironiquement, sur l'espèce de futur ou le seul espoir en ce moment en ce qui se passe en termes de LGBTQ droits, les droits des LGBTQ, c'est vraiment les cours fédérales qui font un travail monumental, je dirais.
Reçoivent des menaces, et c'est épouvantable.
Exactement.
J'entendais ça aux nouvelles.
Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, mais ça ralentit le rouleau compresseur.
Ça me permet une petite parenthèse, parce que je vais quand même dire que le Canada n'est pas à l'abri de ça. Je vais rappeler quand même qu'il y a la clause de dérogation de la Constitution canadienne, l'article 33, qui permet donc d'imposer des politiques sur plein de choses et d'enlever des droits, finalement, et de se retirer de la Constitution. On l'a vu en Saskatchewan sur les pronoms et les noms dans les écoles, qui, malgré les contestations judiciaires, ils ont invoqué la clause de dérogation. Donc, pour les 5 prochaines années, c'est comme ça, on ne peut pas remettre ça en question. Même chose en Alberta sur les déclarations. Je peux vous ramener à la première ministre Danielle Smith sur les soins d'affirmation de genre. Alors, le Canada n'est pas à l'abri de ça. Il y a des rapports qui démontrent aussi que la hausse depuis 2019 des crimes violents envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Il y a un rapport d'Égal Canada qui dit que l'augmentation des menaces et de la désinformation en ligne visant les communautés trans. Bon, y a-t-il moyen d'arrêter ça? Puis là, j'aimerais voir de chacun rapidement de votre côté. Vas-y, Chantal, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a de la mobilisation, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ça?
Bien, la mobilisation, c'est celle de terrain. Hein? Il n'y a rien à faire et on est dans un état de droit. On est dans une situation où, justement, il faut... moi, personnellement, je le dis en onde, je donne plein de fric à toutes ces organisations qui s'organisent autour de la défense des LGBTQ et je trouve ça super important. Alors, c'est vraiment un travail de terrain. Le terrain est au niveau juridique. On va voir au niveau législatif.
Oui, voilà. Parce qu'il y a les midterms qui s'en viennent, les élections de mi-mandat, et peut-être que, bon, Trump n'aura peut-être plus autant de pouvoir si les élections ont lieu, ça c'est une autre paire de manches. Christophe, voilà. est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut bloquer ça? Est-ce qu'on peut faire un arrêt à ces trucs-là, là, cette marche vers un éventuel peut-être génocide?
Oui, alors au niveau de l'Union européenne, il y a un rapport qui est publié pour les années 2026 à 2030, donc avec un certain nombre de choses qui sont faites. Ce qu'il faut signaler également, c'est qu'il y a de plus en plus d'associations, c'est le cas notamment de Stop Homophobie ou Mousse en France, qui vont devant les tribunaux, que ce soit en France. Là, ils ont attaqué récemment Meta. Oui. Pour tout ce qui est propos LGBT-phobes sur les réseaux. Mais ils interviennent également sur le respect des droits personnels en Europe, etc. Donc, il y a une vraie mobilisation là-dessus. Et sur le terrain aussi, au niveau local, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment le fait de mettre en place des endroits un peu safe pour les personnes de la communauté. Tu parlais de la hausse des violences faites. Ici en France, sur ILGA Europe, il y a plus de la moitié des personnes LGBTQIA+ en Europe qui estiment que la violence et la haine ont augmenté au cours des 3 dernières années malgré les protections juridiques existantes. Bon, donc ça, là, c'est important à faire. Mais il faut rester positif parce que...
Ouais, on s'était promis de... Il me reste juste quelques minutes. En fait, même pas une minute trente. On s'était promis de ne pas terminer sur une note négative. Vous avez tous les deux fait l'effort de me trouver une petite nouvelle positive. On vous donne à peu près 30 secondes, 35 secondes chacun. Chantal.
Bon, écoute, moi, je vais revenir avec mon université. En ce moment, on a un groupe dans mon département, c'est tout petit, hein, mais qu'ils ont développé des stratégies de escorter les étudiants qui se sentent vulnérables sur le campus entre leur salle de cours et la bibliothèque ou quoi que ce soit. Alors, c'est tout petit, on parle d'une cinquantaine de personnes, mais je trouve ça remarquable. Et ils sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, les gens qui sont inscrits à ça, il y a comme un phénomène on fait une espèce de... Je m'excuse, je cherche mes mots là, en français, Denis Martin
Spinet. Un escorte, on s'aide, hein, on s'entraide.
Oui, et c'est ça. Et les gens appellent ce numéro de téléphone-là, ouais, et textent, vient les chercher, on les escorte. Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est tout petit, mais je trouve que c'est super important.
Un petit numéro, donc un 800 ou quelque chose du genre. Tiens, Christophe, en Europe, quelque chose?
Oui, en France particulièrement, c'est assez récent, c'est le 6 janvier dernier, un groupe de parlementaires et de députés plutôt de gauche a déposé un projet de loi pour... une loi pour l'autodétermination. Alors c'est la troisième. Il y en a deux au Sénat, il y en a une à l'Assemblée nationale. Donc l'autodétermination et la simplification de l'autodétermination. En fait, on devrait plus. Enfin, une personne trans ne devra plus passer par un tribunal, mais aller directement à la mairie, à l'état civil, pour faire son changement de genre et de prénom, tout simplement.
Bon,
donc,
et puis
plutôt une bonne nouvelle.
Oui, puis il y a l'heure où l'arc-en-ciel se lève, où on essaye d'être un phare pour toutes ces personnes, parce qu'on est écouté au Canada, on est écouté pas mal partout dans la francophonie, alors on est très content d'être là pour les personnes qui ont besoin de nous. Merci beaucoup donc Chantal Nadeau qu'on a rejoint aux États-Unis et Christophe Gérard en France. Merci beaucoup pour ce regard un peu inquiétant de ce qui se passe pour nos communautés, mais bon, il fallait en parler. Merci beaucoup.